franceinter.fr.
Bonjour Jean Tirole.
Bonjour Patrick Cohen.
Votre prix Nobel d'économie a donné du poids à votre parole, mais vous n'en avez pas abusé ces derniers mois. On connaît vos convictions, vos combats pour un contrat de travail unique, une profonde réforme du code du travail et surtout du licenciement. Et puis l'environnement, une tarification mondiale du carbone, on va en reparler. Vous avez l'intention désormais d'intervenir plus fortement dans le débat public. Quel est votre place, à votre avis, aux côtés des décideurs, Jean Tirole?
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis d'abord un chercheur en économie. Il faut comprendre que mon rôle, mon travail, c'est de créer de la pensée économique et éventuellement de la diffuser, mais je ne suis pas du tout un commentateur politique. Je ne suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Donc je sais que j'ai une responsabilité, je sais que je dois intervenir plus, mais je ne veux pas parler trop souvent et je veux parler essentiellement sur les questions de long terme.
Essentiellement sur les questions de long terme. Et quand vous prenez position, comme il y a quelques mois, avec une douzaine d'autres économistes pour un job act à la française, vous intervenez directement dans un débat public et dans un débat politique qui est en cours sur que doit-on faire du code du travail et est-ce qu'on peut améliorer la situation de l'emploi en réformant notamment les conditions de licenciement.
Oui, alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé depuis le 13 octobre du marché du travail, qui est quand même pas ma spécialité. J'ai travaillé dessus, donc j'ai une certaine compétence. J'ai travaillé avec Olivier Blanchard, mais ça représente à peu près 1% de mes travaux.
Olivier Blanchard, qui est le chef économiste du FMI, de la Fonds Monétaire International.
Donc le problème du chômage n'est pas un problème récent. C'est vrai que le chômage est en train de croître. Le système français du marché du travail est un système qui est une machine à créer du chômage et de l'exclusion. Je crois qu'il faut le rappeler. Et ce n'est pas un hasard si on a un chômage très élevé. C'est-à-dire que c'est un chômage qui est structurel en partie. Évidemment, il y a la récession aussi. Mais c'est un chômage qui est créé par les institutions. Donc on peut réformer ces institutions. D'autres pays, en particulier en Europe du Nord, l'ont fait. Et nous pouvons le faire afin de créer de l'emploi.
Comment être convaincu, comme vous l'êtes, Jean Tirole, que faciliter le licenciement, comme vous le proposez, c'est-à-dire en supprimant dans le Code du travail la cause réelle et sérieuse, peut, et ce que réclame au fond le patronat, comment être convaincu sur le plan de la pensée économique que cette réforme-là peut réellement créer l'emploi.
Vous avez tout à fait raison. Je comprends que les auditeurs soient un peu inquiets d'une telle proposition.
D'après d'autres économistes, en viendrait à briser et à casser les droits du travail des salariés.
Alors la question est la suivante, c'est qu'actuellement nous n'avons plus de création de CDI puisque les employeurs ont peur de prendre des emplois qui finalement ne seront peut-être pas justifiés. Et on dit toujours qu'en France comme ailleurs, il faut protéger le salarié et non pas l'emploi lui-même. Donc ce que nous avons proposé avec Olivier Blanchard, c'est d'une part arrêter avec les CDD, et les contrats aidés d'ailleurs, qui sont des mauvais emplois, c'est des emplois qui ne préparent pas, dans lesquels les employeurs n'investissent pas vraiment dans le salarié, et par contre d'avoir un contrat unique. Alors quand vous dites qu'il n'y a plus de protection, si, il y a de la protection. Nous avons d'ailleurs proposé une taxe de licenciement, qui serait une taxe neutre fiscalement, puisque le produit de la taxe de licenciement irait à la baisse des cotisations salariales. Et par ailleurs, cette taxe de licenciement inciterait les entreprises à faire attention. Mais le juge ne peut pas se substituer au chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui, sait si tel emploi est justifié ou non.
Et donc ?
Et donc, voilà, nous avons appelé à, d'une part, la suppression des CDD et la suppression des CDI tels qu'ils existent actuellement, un contrat plus flexible avec un bonus-malus, en quelque sorte.
Bon, ce que vos adversaires disent, résument en disant, bon, on laisse entre les mains du patron, c'est l'arbitraire patronal, finalement, qui décide du niveau d'emploi dans chaque entreprise.
Alors, d'abord, le chef d'entreprise, comme je le disais, a plus d'informations sur ce qui se passe dans l'entreprise.
Il est plus qualifié que le juge, ça, c'est ce que vous répétez souvent.
Et ce que je dirais en plus, c'est qu'actuellement, on ne crée plus de CDI, il ne faut pas oublier. On a un système qui est extrêmement inégalitaire, dual, avec une exclusion des gens du marché du travail, surtout des peu qualifiés, des seniors. Et je pense que le système actuel est vraiment à changer.
Le système est à changer. Quid des baisses de cotisations sociales ou des baisses de charges, qui est la politique suivie par le gouvernement maintenant depuis plusieurs années. Vous avez entendu ce matin sur France Inter la révélation des grandes lignes du rapport sur le CICE, 18 milliards d'euros rendus aux entreprises pour cette année, et le résultat, c'est que en proportion, ce sont les PME qui en profitent le plus, mais dans des secteurs souvent peu exposés à la concurrence internationale, le service, le bâtiment, la restauration, et donc un résultat assez éloigné des objectifs définis au départ. Qu'en pensez-vous, Jean Tirole ?
Alors, la fiscalité en France porte beaucoup sur le travail, malheureusement, beaucoup trop. Participe d'ailleurs au chômage, hein, faut bien le dire. Donc il va falloir baisser la fiscalité de façon générale sur le travail. Donc après les détails, on dit souvent effectivement qu'il faut baisser les charges sociales, surtout sur les bas salaires, c'est là qu'il y a le plus de chômage, les peu qualifiés. Ça pose le problème plus général du budget de l'État. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait important. C'est-à-dire que le budget de l'État doit avoir une certaine cohérence. Et je dis ça de façon très générale. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses, il y a des recettes. Et on peut très bien vivre dans un pays avec des dépenses publiques très importantes et puis des recettes publiques, des impôts très importants. Ou inversement. Parce que à terme, alors évidemment, il faut ajuster pour le cycle, mais à terme, il y a une contrainte budgétaire comme un ménage. Hein. On peut pas vivre à crédit pendant très longtemps. Donc, on peut avoir ces deux choses-là. Maintenant, mon point de vue, c'est qu'il faut quand même arriver à diminuer un peu la taille de l'État. En France, on est quand même l'État qui a les prélèvements obligatoires les plus élevés avec la Belgique et le Danemark, je crois. Et donc, mais ça, c'est un point de vue. Ce qui est important, c'est qu'il y a une certaine cohérence entre les dépenses et les recettes.
Une cohérence entre les dépenses et les recettes, mais le poids de cet État confère aussi à ces citoyens, ses administrés, une protection qui n'est pas comparable ou qui n'est pas égale, qui est supérieure en tout cas à celle de nos voisins.
Bien sûr, je pense que les Scandinaves ont fait un choix, par exemple, de protection sociale qui me paraît tout à fait judicieux, mais ça n'empêche pas qu'ils essaient d'améliorer l'efficacité de l'État en même temps. Mmh. Justement, je pense que des impôts élevés peuvent être très bien, très justifiés, à condition que l'État lui-même soit très efficace.
Quelle devrait être, Jean Tirole, la contribution des entreprises auxquelles vous vous intéressez particulièrement dans la lutte, dans le combat contre le réchauffement climatique? On est à quelques mois maintenant, à quelques semaines du début de la COP21, sommet climat à Paris, échéance très importante pour laquelle vous vous êtes engagé.
Ben merci pour cette question. Je pense qu'effectivement, il y a une inquiétude très forte vis-à-vis de ce que nous, l'humanité, faisons pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous continuons de discuter, alors avec beaucoup de bonne volonté de la part de ceux qui négocient, vis-à-vis de promesses qui sont vagues, qui sont difficiles à chiffrer, avec des repères différents.
Et difficiles à contrôler.
Et difficiles à contrôler, c'est-à-dire qu'il y a actuellement de discussion de la mesure, de qu'est-ce qui se passe si ces promesses ne sont pas tenues. Du coup aussi, c'est très important pour un économiste, parce que si on dépense beaucoup trop pour une diminution de la pollution donnée, évidemment, cette politique va être remise en cause. Donc, c'est très, très mauvais pour le climat. Donc, il y a ces promesses qui sont vagues, qui sont pas tenables, et qui, on a bien vu, parce qu'on a eu déjà des promesses depuis Kyoto.
Les promesses des États, oui.
Et donc, il y a une certaine inquiétude. Moi, en tant qu'économiste, évidemment, j'essaie de proposer des solutions. Nous avons essayé de proposer des solutions, d'ailleurs, avec Christian Gollier, qui est avec moi à Toulouse, avec Joe Stiglitz, avec d'autres, récemment, où on a tous dit il faut un prix du carbone. C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser ce principe pollueur-payeur. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Il faut responsabiliser les acteurs économiques, que ce soit les entreprises, les ménages ou les administrations.
Donc, un prix unique et mondial du carbone, comment voilà. Ça pourrait se mettre en place?
Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait faire, c'est bon, d'abord, il faut monter le prix du carbone très nettement, parce que partout, sauf en Suède, il est extrêmement bas, donc il est très peu incitatif. C'est pour ça qu'on a autant de pollution, parce qu'actuellement, même avec les promesses dont on ne sait pas si elles vont être tenues, on va quand même avoir un réchauffement de 3-4 degrés au moins, alors que le maximum, c'est 2 degrés, donc c'est quand même extraordinaire. On est dans une situation très inquiétante. Alors, pourquoi un prix unique? Ben simplement parce qu'il faut aller chercher les gisements d'économie de carbone là où ils sont, là où ils coûtent pas trop cher. C'est-à-dire que si vous voulez décarboner l'électricité française, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de carbone, on fonctionne au nucléaire. Par contre, les mines de charbon chinoises, à coût très bas, on peut réduire la carbone. Alors ça nécessite aussi une compensation, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut décider de qui doit faire baisser sa consommation de carbone.
Bon, et donc qui pourrait mettre ça en place au niveau, mondial? C'est, enfin,
vous avez tout à fait raison.
Vous voyez les questions que ça.
C'est une question extrêmement difficile, mais il y a deux questions. C'est pas une question économique. On sait faire, on l'a fait pour d'autres polluants, donc on sait très bien faire ces choses-là. C'est une question politique. Donc il y a deux questions. Il y a la question de la compensation, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une compensation vers les pays les plus pauvres. Et donc là, il faut une certaine générosité. Comme d'ailleurs, on doit avoir une certaine générosité vis-à-vis des migrants. Il faut une générosité. Il faut que les pays riches acceptent, qui sont pas forcément, qui ont pas forcément intérêt d'ailleurs à accepter. Mais il faut qu'ils acceptent de payer pour les pays pauvres. Et après, il faut que les pays pauvres soient associés, parce que les gisements d'économie de carbone se trouvent essentiellement dans les pays pauvres.
Jean Tirole, prix Nobel d'économie, professeur à l'école d'économie de Toulouse. On va revenir sur ces questions avec les auditeurs dans quelques minutes et sur les migrants tout de suite dans la revue de presse. Il est 8h32.